Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast en partenariat avec Neoma Business School et précisément aujourd'hui je me trouve avec Nathalie Janson. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes donc professeure à Neoma Business School au sein du département finance et ensemble, si vous voulez bien, nous allons parler des crypto-monnaies avec un sujet. L'année 2023 sera-t-elle l'année de tous les dangers pour les crypto-monnaies? Alors avant d'évoquer ce sujet ma foi passionnant, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus amplement à nos auditeurs?
Oui, tout à fait. Donc, je suis Nathalie Janson. Je suis à l'école à Neoma depuis très longtemps. Maintenant, ça va faire plus de 20 ans. Donc, j'ai été effectivement à l'origine sur le campus de Rouen. C'était, voilà, c'est là où j'ai démarré. Et je suis ma spécialité. C'est toutes les questions, en fait, relatives aux banques centrales et à la régulation bancaire. Et en fait, ce n'est pas étranger du tout au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Puisqu'en fait, dans mes études très lointaines, donc quand j'ai fait ma thèse, je me suis beaucoup intéressée au système bancaire, et notamment au système bancaire avant qu'il n'y ait des banques centrales, donc et avant qu'il y ait des régulations. Et donc, dans ces systèmes-là, il existait des monnaies privées. Et voilà, et donc, évidemment, dans les années 90, ce sujet avait peu d'intérêt. On se dirigeait plutôt vers une régulation bancaire de plus en plus forte. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les régulations de Bâle pour tous ceux qui travaillent dans le secteur ou qui vont vouloir faire des stages dans ce secteur. Mmh. Ils le sauront très vite. Et puis, effectivement, a émergé à un moment donné, ces crypto-monnaies ont émergé. Et ça m'a fait penser, effectivement, à ces épisodes de monnaie privée. Donc, je m'y suis intéressée relativement tôt, puisque c'était dans les années 2012-13.
Mmh, c'est ça. Alors, justement, donc on va évoquer ce sujet des crypto-monnaies. Peut-être un peu de travail préliminaire sémantique, hein, quand même. C'est pas évident. Hein. Il y a beaucoup de termes qui se croisent, qui se cognent entre eux. Donc, crypto-monnaie, Web3, la chaîne de création de ces bitcoins, enfin, de ces bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. D'ailleurs, on parle volontiers des bitcoins, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Est-ce que vous pouvez simplement préciser un petit peu tout ça, et en particulier donc ce que sont ces fameuses crypto-monnaies?
Alors les crypto-monnaies, c'est tout simplement une forme digitale de monnaie. Alors ça, c'est rien de nouveau, hein, puisqu'on en a plein, des monnaies digitales. Vous en avez sur vous, vous en avez dans votre téléphone. Mais effectivement, elles sont crypto-monnaies dès lors où en fait, elles permettent une transaction de pair à pair, donc directement entre vous et moi, ouais, sans intermédiaire.
Le pire-to-pire, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et donc, c'est là où intervient effectivement la cryptographie, puisque effectivement, pour que cette transaction puisse se faire sans qu'il y ait de copie, il faut effectivement avoir de la cryptographie pour être sûr et certain que la transaction soit unique et qu'elle a bien de vous à moi et non pas par d'autres. Elle ne doit pas y avoir de fraude.
Et alors, justement, on parle aussi de miner du bitcoin. Hein, c'est un mot qu'on entend assez souvent. Là aussi, est-ce que vous pouvez expliciter
un peu ce terme ? Oui, alors là, c'est effectivement très propre au système bitcoin. Donc, comme vous l'avez dit, les crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Il y en a tellement, d'ailleurs, qu'on en compte entre 5 et 7 000. Donc, il y en a vraiment une constellation. Néanmoins, depuis le départ, c'est donc le bitcoin qui a été la première. Il faut bien... Voilà, la première qui a réussi.
C'était autour des années
2009, c'est sa première transaction. On a fêté effectivement cet anniversaire au mois de janvier, l'anniversaire de la première transaction en Bitcoin. Et effectivement, c'est la première qui a émergé. Et en fait, depuis la naissance de ce secteur, on peut dire que le Bitcoin, c'est toujours le numéro un, même s'il perd des parts de marché, que la deuxième, c'est l'Ethereum, et que les autres, en fait, changent au fur et à mesure des années. C'est jamais la même numéro 3, 4 et 5. Elles changent, en fait, assez souvent. Mmh. Donc, effectivement, dans le système Bitcoin, on a une particularité, on dit qu'en fait, les transactions sont validées, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être effectuées et parce qu'elles sont justes et qu'elles sont donc valides par ces fameux mineurs. Donc, le mineur fait partie intégrale de la communauté Bitcoin et c'est ça qui permet à la transaction d'avoir lieu. Et ils sont extrêmement importants puisque c'est à travers ce réseau informatique, puisque les mineurs sont donc en fait tout simplement des ordinateurs, des ordinateurs qui vont venir résoudre des problèmes mathématiques très complexes qui vont requérir beaucoup d'énergie pour ça. Et c'est pour ça que c'est des gros computers qu'on appelle des ASICs qui vont permettre cet exploit de pouvoir trouver la solution au problème. Donc, il n'y en a qu'un qui trouve la solution. mais pour voilà, beaucoup de mineurs qui se collent à la tâche. Et celui qui trouve la solution va se trouver rémunéré. C'est l'intérêt, en fait, de participer au réseau, puisque sinon, on se demanderait, mais pourquoi ils font ça ? Mmh. Alors, effectivement, les premiers, on peut se dire qu'ils ont vraiment fait ça pour la gloire, parce que, bien évidemment, cet acte est rémunéré, comme je disais. Il est rémunéré et cette rémunération, en fait, diminue avec le temps. Mais voilà, il était rémunéré au début, comme le Bitcoin ne valait rien ou quasiment pas. Et bien, évidemment, vous aviez une rémunération en Bitcoin, voilà, qui était juste un symbole glorieux. Bon, aujourd'hui, étant donné que le Bitcoin a une valeur beaucoup plus importante, même si sa rémunération a diminué au cours du temps, eh bien, ça fait quand même un sacré paquet d'argent pour celui qui participe à ce réseau.
Voilà, et donc ce réseau permet une grande traçabilité des échanges, hein, c'est bien sûr.
Voilà, donc en fait, on s'appuie donc sur ce qu'on appelle un ledger qui est public. Donc, c'est une espèce de grand livre ouvert de comptes où on peut même y voir, on peut associer aussi une image de fichiers Excel partagés où, en fait, à chaque fois qu'il y a une transaction, bah, tout le monde la voit en même temps. Mmh. C'est ça qui est la puissance. C'est ce système informatique décentralisé. Et c'est effectivement la grande qualité du Bitcoin et c'est son caractère incensurable. Et donc, parce qu'effectivement, on voit difficilement comment quelqu'un peut venir corrompre le système, étant donné que l'information tombant en même temps sur tous les ordinateurs qui font partie du réseau, il faudrait que celui qui corrompt, eh bien, réussisse en fait à falsifier cette information au même moment pour tous les ordinateurs sur la Terre. Alors, on ne dit jamais c'est impossible, hein, c'est pas possible. Enfin, voilà, il n'y a pas de risque zéro dans la vie. Donc, mais la probabilité, effectivement, qu'un tel événement arrive, pour le moment, en tout cas, cette probabilité est très, très faible. Et c'est pour ça que ça fait la solidité de ce système qu'on appelle donc la preuve de travail, mais qui est très décriée parce qu'il est très consommateur d'énergie.
Oui, voilà, on pourrait y revenir. Oui. Alors, peut-être une question qui peut paraître un peu naïve, mais finalement, quel est l'intérêt des crypto-monnaies ? Voilà, vous l'avez dit, il y en a beaucoup de monnaies digitales, et pourtant, c'est quand même des monnaies qui alimentent un peu tous les fantasmes depuis maintenant une dizaine d'années. Pourquoi parle-t-on tant de ces crypto-monnaies ?
Alors, l'intérêt, en fait, des crypto-monnaies, en tout cas, un des intérêts les plus importants, c'est son caractère incensurable. Alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce que quand en fait, on est dans des pays où on subit, en fait, à la fois l'autoritarisme de l'État et puis aussi, on peut avoir l'État prédateur, eh bien, en fait, on peut s'extraire de cet État grâce, en fait, au Bitcoin. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il est demandé, malgré toutes les controverses à son sujet et sa volatilité, c'est qu'en fait, pour certaines populations, c'est un rempart contre, en fait, l'État prédateur, puisqu'en fait, de facto, en fait, il n'est pas contrôlable. Donc, on pourra y revenir, on pourra essayer d'imaginer toutes les régulations possibles, mais il est intrinsèquement incontrôlable, puisqu'il est généré par cette communauté. Donc, tant que la communauté existe, le Bitcoin existe et il est donc incensurable. Et c'est ce qui fait, en fait, sa valeur. Parce que, vous l'avez tout à fait justement dit, on aurait pu très bien avoir un Bitcoin qui n'est jamais décollé. Donc, il y a bien quelque chose qui apporte de la valeur, en tout cas à certains. Et au travers du temps, il y a eu différentes raisons, il y a eu différentes communautés qui ont été intéressées. Alors, effectivement, on l'attribue surtout les débuts à la communauté cyberpunk, parce que, voilà, c'était... Et puis sans doute aux geeks, pour qui c'était un challenge pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis après, on a eu aussi ceux qui étaient plutôt dans le commerce illicite, parce que même s'il est quand même traçable, contrairement au cash, faut bien être clair, puisque comme je viens de vous le dire, c'est un livre ouvert, donc on a bien les transactions. Mais comme les transactions sont des séries de chiffres et de lettres, on ne sait pas exactement qui est derrière. Mmh. Et puis, il faut savoir que par sécurité, il est conseillé, en fait, d'avoir un chiffrement pour chaque transaction. Donc, ce n'est pas comme notre compte en banque. Notre compte en banque, en fait, on va faire des transactions et elles sont toutes sous le même numéro. Et bien, en fait, quand on fait des transactions en crypto, en fait, on va changer de numéro à chaque fois qu'on fait une transaction. Mmh. Donc, effectivement, ça rend un peu le système un peu plus compliqué à tracer. Mais il n'est pas intraçable. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités sont quand même beaucoup plus aguerries et sont capables de tracer et de repérer les transactions, en fait, illicites, alors qu'au début, c'était plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'au début, l'économie illicite, et surtout celle qui était développée sur le web, eh bien, ils trouvent un intérêt, puisque vous comprenez bien que faire une transaction illicite sur le web, ça s'accompagne rarement d'un paiement en cash, ça semblerait un peu, un peu étrange. Donc, effectivement, les crypto-monnaies arrivaient comme une innovation majeure. Certains y voient une innovation positive parce qu'ils disent que ça permet d'enlever le trafic dans les rues, puisque du coup, ils se délocalisent sur le web. Bon, voilà. Mais c'est vrai que c'était intéressant et cette communauté a participé aussi à son développement. Et puis après, ça s'est passé dans d'autres communautés, comme je disais avant, de pays comme l'Argentine, qui était sous une forte instabilité monétaire, oui. ou le Venezuela, ou le Liban aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de communautés qui, effectivement, utilisent, ou même l'Ukraine au début de la guerre, on en a entendu parler. Voilà.
Alors vous l'avez dit hein, très justement, la question des crypto-monnaies est très clivante entre ses détracteurs et ceux qui, au contraire, défendent ce modèle presque libertarien. Vous l'avez dit aussi hein, par ailleurs, hein, la crypto-monnaie a fortiori, donc le Bitcoin a connu un véritable boom ces dernières années, mais néanmoins c'est tout de même une monnaie très très versatile, hein, notamment oui. en 2021-2022, ceux qui avaient des Bitcoins ont dû s'arracher quelques cheveux en suivant l'évolution du cours du Bitcoin. Comment expliquer simplement ces fluctuations aussi spectaculaire?
Alors oui, tout à fait, ça fait partie, je pense, d'un aspect assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, si on vient aux origines, en fait, ceux qui ont créé ce projet, donc voilà, il a un nom, le créateur a un nom qui est en fait japonisant, mais qui a priori...
On n'est pas sûr que ce soit...
Voilà, exactement, voilà. On pense que ça regroupe un groupe de développeurs, et leur idée... C'était presque une revendication, un projet politique presque, hein, puisqu'en fait, c'est né dans les années avant la crise de 2008, d'un constat qui faisait état en fait d'un système monétaire aujourd'hui incontrôlable. Donc en fait, on était en pleine crise de 2008, on voyait bien que les États, les gouvernements, les autorités monétaires se trouvaient dépassés en fait par l'ampleur de la crise, qu'ils n'avaient pas vu venir. Et beaucoup ont attribué cette crise en fait à une espèce d'emballement de la sphère à la fois financière et bancaire qui n'était pas assez contrôlée par les autorités qui pourtant, où il y avait déjà de la régulation monétaire, de la régulation bancaire, et pourtant on a eu cette crise majeure. Donc devant cette crise majeure, il y avait une demande récurrente aux États-Unis, c'était pas la première fois, de projets de digital cash, et notamment adossés sur l'or, avec beaucoup de revendications pour revenir à un système plus discipliné, où on va pas créer de façon infinie de la monnaie, du crédit qui favorise les bulles. Et donc voilà le projet, c'est d'aller créer une monnaie dont le montant sera fini. On aura un montant donné. Ce montant, il est donc donné à 21 millions, qui devrait être atteint en 2140. Et pour atteindre ce montant, donc en fait, la production de ces bitcoins est faite par les mineurs, puisque c'est eux qui vont découvrir ces bitcoins à chaque validation de transaction. Et en fait, quand ces bitcoins sont découverts au fur et à mesure, donc évidemment, leur taux de croissance va baisser avec le temps, parce qu'on rémunère moins ceux qui vont participer au réseau. Et donc l'offre de bitcoin, elle se ralentit au fur et à mesure, mais elle ne répond en aucun cas à la demande. Donc ça veut dire que quand vous achetez, je sais pas moi, une voiture, si jamais elle a beaucoup de succès, le constructeur automobile va en produire plus. Donc si jamais le prix augmente, après il diminue parce qu'il a mis en vente plus de voitures. Là, dans le cas du Bitcoin, c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tout d'un coup il y a un engouement pour le Bitcoin, eh bien sa production, elle va continuer sa croissance dictée par le protocole informatique. Mais en aucun cas, elle va augmenter parce qu'il y a plus de demandeurs. Donc ça, c'est ce qui explique que quand il y a beaucoup de gens qui demandent du Bitcoin, eh bien son prix s'envole. Et quand, à l'inverse, le Bitcoin n'est plus demandé, eh bien le prix s'effondre. Donc ça, c'est déjà effectivement le projet Bitcoin. Et je pense que sans doute, ses concepteurs n'avaient pas assez vu cet aspect-là. C'est qu'en fait, il a une forte volatilité du fait de cette fixité de l'offre, oui, qui ne répond pas à la demande.
Oui, parce que si on compare effectivement avec des monnaies classiques, là en général, on a une banque centrale
qui va
plus ou moins faire marcher la planche à billets en fonction de la conjoncture.
Tout à fait. Donc là, dans notre monde traditionnel, on a effectivement un acteur qui va réguler cette offre. Dans le monde de la crypto, pas du tout, puisque c'était vraiment, justement, c'était la volonté de base, c'était surtout pas d'État. On veut enlever le côté humain, parce qu'on voit bien que l'être humain est corruptible, que les banques centrales n'arrivent pas à se défaire des États, qu'elles n'ont pas de politique monétaire indépendante. Et on va retrouver cette indépendance dans ce système qui, en fait, est quand même assez rigide, mais qui se prémunit de tout, en fait, de toute influence de l'homme sur cette décision monétaire. Alors, il faut savoir aussi, pour la petite histoire, et pour ceux, les jeunes auditeurs qui sont en prépa, qu'en fait, c'est un petit peu le rêve friedmanien de Milton Friedman devenu réalité. Parce qu'en fait, Milton Friedman, dans la théorie monétaire, c'est celui qui a beaucoup prôné les banques centrales indépendantes, faire en sorte que le politique n'interfère pas avec la décision monétaire de la banque centrale. Et il voyait bien que c'était compliqué, et il avait prôné la règle monétaire d'or, où il fallait inscrire le taux de croissance de l'offre de monnaie dans la constitution pour qu'il ne soit pas changé par les politiciens. Et il avait aussi entrevu à la fin de sa vie, parce qu'il ne croyait plus, il se demandait comment on pouvait empêcher les politiciens de se saisir de l'arme monétaire. Il disait qu'après tout, la solution serait peut-être dans l'informatique. Alors, il a sans doute été très clairvoyant et a beaucoup d'intuition. Mais en fait, eux, ils ont réalisé ce rêve, c'est-à-dire utiliser l'informatique pour mettre dans le code informatique pour que l'être humain ne puisse pas aller corrompre ce code.
Voilà. Oui, c'est parce que Milton Friedman est mort peu avant, je
crois. Oui, il est mort à la fin des années, début 90 ou fin 80. Oui. Et donc, c'est avant. Alors, il y avait déjà des tentatives de monnaie digitale, mais pas abouti à ce point-là.
Oui, d'accord. Ok. Alors, si vous voulez bien, maintenant, j'aimerais qu'on parle du Bitcoin, hein, qui, on l'a dit, qui est la monnaie de référence. Alors, mais certes, la monnaie de référence, néanmoins challengée par l'Ethereum, c'est quand même les deux crypto-monnaies qui se détachent. Simplement, alors c'est difficile de faire un grand si quand on parle d'histoire, mais pourquoi ces deux monnaies se sont détachées plus que les autres ?
Alors, pour ma part, je pense que le Bitcoin s'est détaché grâce à la preuve de travail et à la force de la preuve de travail. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment son côté incorruptible du fait de reposer sur la validation des transactions à travers la décentralisation du travail fait par les ordinateurs qui fait sa force. Et sa force est portée effectivement par le fait qu'elle va satisfaire, en fait, comme je disais auparavant, tous ceux qui sont en peine de s'extraire de leur état. Et ça, c'est une vraie force, parce qu'effectivement, c'est un système qui n'est pas corruptible, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais il est un peu archaïque, c'est-à-dire que c'est vraiment, il a été conçu comme une monnaie pour faire des transactions. Il n'est pas très souple, on lui reproche souvent de ne pas être assez souple. Bon, même si aujourd'hui il y a des tentatives visiblement pour essayer de faire du NFT avec du Bitcoin, mais quand même, il n'est pas très souple dans son architecture. Et l'Ethereum est venu, en fait, on peut faire un peu la comparaison. Le Bitcoin, c'est la monnaie, et l'Ethereum, c'est le marché financier crypto. Enfin, c'est le marché financier digital, décentralisé. Parce qu'en fait, l'Ethereum, lui, il va justement être souple et il va en fait intégrer ce qu'on appelle les smart contracts, donc les contrats intelligents, qui va en fait permettre une automatisation des règles. Et donc, on va pouvoir répliquer en fait des sortes de contrats financiers. Donc voilà. Donc on peut faire le parallèle. Finalement, le Bitcoin, il réplique en termes crypto notre système monétaire, alors que l'Ethereum va en fait avoir une continuité par rapport au système financier existant.
Alors, est-ce que vous pouvez simplement donner quelques chiffres aussi pour qu'on se rende compte un petit peu de la puissance du Bitcoin ? C'est vrai que c'est très nébuleux pour beaucoup de personnes, finalement.
Oui,
quelle est la réalité de la chose ?
Oui, alors peut-être que certains vont être déçus, d'ailleurs. Finalement, le Bitcoin ne représente pas tant que ça par rapport à d'autres valeurs existantes. Donc, si on ramène en termes monétaires, effectivement, on estime souvent qu'il y a un peu moins de 2000 milliards de dollars sous forme de billets qui circulent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, compte tenu du cours du Bitcoin aujourd'hui, on est à 400 milliards. Donc finalement, c'est quand même assez petit si on veut comparer des choses comparables. Ils ont été... Bon, il a été jusqu'à atteindre évidemment 1000 milliards quand il a été au plus haut de son cours en 2021. Mais voilà, donc il est quand même relativement petit. Si on veut faire d'autres comparaisons, on avait la capitalisation d'Apple qui parlera à tous les jeunes, c'est plus de 2000 milliards aussi. Oui. Voilà, on a Jeff Bezos, sa fortune personnelle se monte à plusieurs centaines de milliards de dollars, donc un peu en dessous du Bitcoin. Mais voilà, donc somme toute, c'est une économie qui certes fait beaucoup parler d'elle, mais en termes de valeur, n'est pas aussi énorme que ça.
Oui, voilà, c'est ça. C'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur quand même pour se rendre compte un petit peu de la chose. En termes de part de marché, alors on l'a dit, hein, le Bitcoin est assez hégémonique, mais est-ce que c'est vraiment très frappant? Est-ce que c'est du même ordre que, par exemple, la domination de Google sur le marché des moteurs de recherche ou c'est un petit peu plus nuancé que ça?
Alors, c'est plus nuancé aujourd'hui. En effet, le Bitcoin a été très longtemps à 60% de part de marché dans ce marché très vivace où il y avait plein de cryptos, mais où finalement, les cryptos les plus importantes demeuraient le Bitcoin et l'Ethereum. Mmh. Et effectivement, l'Ethereum, cette année, a beaucoup gagné, en tout cas sur 2022, et le début 2023, parce que l'Ethereum, qui lui était aussi en preuve de travail jusqu'à maintenant, et a enfin fait son fameux merge en septembre 2022 pour passer en ce qu'on appelle preuve d'enjeu. Et comme c'est moins consommateur d'énergie, il est vrai que il a eu beaucoup de succès par rapport à cette transformation. Et donc, il a pris des parts de marché au Bitcoin.
Oui, voilà. Alors ça, c'est des termes qu'on entend souvent, proof of work, proof of stake.
Voilà, c'est ça.
C'est peut-être assez technique, mais si vous pouvez l'expliciter.
Oui, bien sûr. Donc là, comme je disais auparavant, la preuve de travail, c'est le fait que ces ordinateurs décentralisés vont se mettre en concurrence pour trouver la solution qui va permettre la validation des transactions. Donc il y a beaucoup d'ordinateurs pour seulement une solution unique. Alors donc c'est totalement il n'y a pas de, comme je le disais apparemment, le système il est donc incensurable et il ne peut pas être corrompu puisque de toute façon c'est une mise en concurrence de milliers d'ordinateurs ensemble. Alors que lorsque je suis sur une preuve d'enjeu, c'est donc des validateurs qui vont être identifiés. Donc ce sont des personnes qui sont soit physiques ou soit morales, qui vont être des validateurs et qui vont être identifiés comme étant ceux qui vont valider, donc à qui on va reconnaître cette qualité de validateur. Donc il y a des critères différents pour le devenir. Et donc, évidemment, les fameux bitcoiners, les pro-bitcoins, s'inscrivent en faux contre l'efficacité de la preuve d'enjeu parce qu'ils disent que ça, à la fin de toute fin, c'est quand même corruptible, alors que ça fait la force de la crypto-monnaie, c'est de ne pas être corruptible. Mmh.
Bien, alors ça, c'est pour la présentation un petit peu générale de la chose. Une remarque à ce sujet, justement. Alors, on l'a dit, les crypto-monnaies, maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, elles ont soufflé leur 14e bougie, 13e bougie. Néanmoins, on a quand même beaucoup, beaucoup plus parlé du Bitcoin ces 2-3 dernières années, depuis à peu près, grosso modo, les années Covid. Pourquoi, tout simplement? Comment expliquer cette résurgence, justement, des crypto-monnaies?
Alors effectivement, c'est un très bon point. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, c'est devenu un sujet envahissant? Donc c'est resté, comme je disais, quand j'ai brossé un peu l'histoire, on a vu la première phase qui était la phase un peu souterraine, voilà, un peu par les crypto-punks, et puis après, effectivement, arriver dans les plateformes du dark web. Donc là, on a eu une première crise dans les années 2013, avec les fermetures de plateformes comme Mongox, qui était une plateforme très connue, à cause de ces problèmes d'activité illicite. Mais là, il y avait très peu de personnes qui étaient au courant que Bitcoin existait. Ensuite, on a eu une première arrivée, une première percée démocratique, je dirais vraiment plus au grand public, vers 2017-2018, où il y a eu une première bulle. À l'époque, on était passé de... je sais pas, de quelques 500 dollars à 20 000 dollars en quelques mois, enfin dans l'année. Et là, effectivement, ça avait explosé en décembre 2017. On avait à peine atteint les 20 000. On était retombé à 3 000, même voire... Non, je crois que 3 500, ça devait être le minimum à l'époque. Et puis, on s'était dit pareil, que finalement, c'était fini, que c'était une bulle, que ça servait à rien. Et puis, bon, ça s'est maintenu. Et effectivement, le Covid est arrivé. Alors, juste avant le Covid, parce que c'était... c'était juste après le Covid... plutôt. Donc avec le Covid, en effet, plusieurs choses se sont passées. C'est que autant 2017-2018 a été une envolée et un crash qui a beaucoup impliqué l'utilisation du Bitcoin en Asie. Donc ça veut dire que jusqu'à en fait 2017-2018, finalement, les États-Unis ne s'étaient pas tellement emparés du sujet en termes d'investissement. Et là, effectivement, c'est une interrogation importante, c'est-à-dire, effectivement, ce projet qui est né comme monnaie, finalement, il a échappé à ses créateurs, parce que à cause de la volatilité, le Bitcoin devient un instrument potentiellement de spéculation de par la volatilité de ces prix. Mmh. Donc, effectivement, comme les prix sont volatiles, finalement, on peut tirer parti d'un gain et on peut miser pour essayer d'avoir des gains. Alors, on remet dans le contexte, on est en 2020, c'est le Covid, les taux d'intérêt sont très bas, ça fait plein d'années que les taux d'intérêt sont très bas, donc il y a beaucoup d'investisseurs qui essayent de diversifier leur portefeuille pour avoir un petit peu de rendement. Donc, évidemment, il y a d'autres évidemment, placements risqués hein, qui existent sur la planète, mais certains se disent, bah, pourquoi pas les cryptos et le Bitcoin en premier, parce que ça peut, c'est une poche de rendement. Et effectivement, les Américains qui sont très, j'ai des très grands investisseurs, parce que les industries de l'investissement sont très développées là-bas, eh bien, commencent à se pencher sur cette question. Et effectivement, quand les États-Unis s'y penchent, eh bien là, on a un impact non négligeable, puisque comme c'est la première puissance financière mondiale, effectivement, là, on a l'impact qui arrive. Donc, on a les fonds d'investissement qui commencent à s'y mettre, on a les gens à la maison qui, à travers les apps comme Robinhood, se disent qu'après tout, pour pourquoi pas eux ? Ils peuvent passer leur journée à essayer de faire les apprentis investisseurs et à moindre coût. Donc, on a un concentré, en fait, à un moment donné, de plein d'acteurs qui n'étaient pas là et qui s'intéressent. Donc, on a une institutionnalisation du Bitcoin dans la gestion de portefeuille qui naît, en fait, à ce moment-là. Et donc, c'est l'emballement. C'est l'emballement parce qu'effectivement, il y a toutes ces liquidités qui circulent, avec aussi aux États-Unis des chèques qui sont donnés à ceux qui restent à la maison. En Europe, c'est pareil. On est maintenu à la maison avec nos salaires. Donc et puis, on ne peut pas dépenser comme avant. Ouais. Donc, on peut effectivement se dire qu'après tout, on peut placer un peu d'argent. On a une espèce de convergence à un moment donné qui fait qu'en fait, le système, enfin le Bitcoin qui est donc très rigide en termes d'offres, eh bien, le prix s'envole puisqu'on a une concentration de demandes sur le Bitcoin qui va expliquer cette envolée complètement délirante puisqu'on passe donc en novembre, donc c'est les premières annonces de PayPal aussi qui commencent à autoriser le Bitcoin pour à la fois pour des gestions de portefeuille mais aussi pour les transactions. Il permet par exemple à des entreprises de pouvoir en fait libeller leurs ventes en Bitcoin s'ils le veulent. Et donc à partir de 2020, il est à quelques 5 000 ou 7 000 dollars et il va passer en janvier à 30 000 et puis en avril à 70. Donc c'est une envolée absolument. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses comparables à ça. Enfin, c'est juste délirant en fait. Et malheureusement, comme dans toutes ces phases délirantes, c'est toujours la peur de manquer. Faut pas manquer la bonne opportunité. Et donc certains, au lieu de se dire il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça va trop vite, eh bien c'est cette peur d'avoir loupé quelque chose qui va l'emporter. Et donc plein vont rejoindre ce mouvement alors qu'il est déjà extrêmement haut. Alors, on a un premier refroidissement en avril 2021 parce que la Chine qui justement trouve le marché totalement délirant, se dit maintenant faut arrêter. Donc ils prennent une mesure drastique qui est celle d'interdire à la fois les mineurs qui étaient très très nombreux chez eux et le Bitcoin. Parce que les mineurs étaient très nombreux chez eux parce qu'en fait on peut avoir des sources d'énergie relativement peu chères. Donc beaucoup de mineurs étaient en fait implantés, avaient leurs on l'appelle ça les fermes de minage en fait établies en Chine. Oui. Et ils se retrouvent chassés par les autorités chinoises manu militari, enfin de façon physique musclée, et donc elles partent. Et donc là effectivement il y a un flottement puisque tout d'un coup on a ceux de la communauté qui sont absolument essentiels pour que tout fonctionne bien et bien qui ont du mal à miner parce que il faut qu'ils déménagent leurs machines. Finalement, le déménagement se passe pas si mal que ça, parce qu'en fait, à partir d'août, en fait, on a retrouvé des conditions normales. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu le temps de remballer leurs machines et d'aller ailleurs. Et ils se sont effectivement déplacés beaucoup aux États-Unis, notamment avec l'État du Texas, qui est un des États qui a le plus attiré de mineurs, de par son accès aux ressources énergétiques relativement disponibles et pas très chères. Et puis, dans d'autres pays, comme le Kazakhstan, dont on avait pas mal parlé à l'époque, parce qu'il y avait une industrie du minage qui s'est installée. En tout cas, c'est une recomposition du paysage, et le Bitcoin repart à la hausse, du coup, après cet ajustement, jusqu'à ce qu'effectivement, les banques centrales commencent à se dire que l'inflation commence à naître dans les, à nouveau dans les économies, et se disent qu'il faut qu'elles augmentent leur taux d'intérêt. Et là, en effet, ça va être la chute du Bitcoin et de deux autres crypto-monnaies, puisque dès lors on a un resserrement monétaire, c'est assez classique hein, en investissement, vous avez toutes les poches d'investissement risquées qui se replient. Donc, au premier titre, les crypto-monnaies, mais pas qu'elles, hein, parce que si on compare, on a par exemple toutes les industries de la tech du Nasdaq, en fait, aux États-Unis, qui font aussi des moins 50, moins 70%. Donc, il n'y a pas que le Bitcoin, mais effectivement, quand le Bitcoin était extrêmement. Enfin, avait eu une envolée délirante. Et effectivement, on va avoir une remise en cause de ce secteur dramatique, aussi parce que plein d'activités parallèles se sont créées en même temps. On a tous entendu parler des plateformes de prêts comme Celsius qui ont fait faillite, et puis après des plateformes d'échange avec la plus grande escroquerie qu'on a pu voir sous nos yeux, qui est celle de FTX, qui est donc tombée aussi par la même occasion. Donc voilà, donc c'est simplement une économie de bulle, ça c'est vraiment typiquement, hein, c'est la crypto-monnaie est devenue la bulle de l'année 2022, et donc elle éclate en 2000, elle éclate la bulle de 2022 qui éclate en 2021 qui éclate qui en 2022, je vais y arriver.
dans cet ordre là
voilà, c'est mieux.
Exactement. Bien, j'avais une dernière question pour conclure ce podcast très très riche, simplement une partie un peu prospective. Alors c'est toujours difficile de jouer à la boule de cristal, à fortiori quand on parle de crypto-monnaie, mais on va quand même tenter de le faire, en particulier sur deux questions qui me semblent essentielles. D'une part, on l'a évoqué, la question environnementale, puisque on l'a dit, le coût de ces crypto-monnaies est loin d'être neutre, hein, finalement, quand il s'agit d'environnement et de développement durable. Et par ailleurs, la question de la régulation. Alors, on l'a dit, c'est presque antinomique hein, de réguler ces crypto-monnaies, mais néanmoins, est-ce qu'on va vers une régulation, justement, de ces crypto-monnaies qui peuvent être, justement, décriées pour les raisons qu'on a évoquées, hein, donc l'économie parallèle souterraine, et puis aussi, effectivement, la volatilité très importante de ces monnaies. Est-ce que même les banques centrales des États vont peut-être se mêler à tout ça, voilà, quels sont un petit peu vos regards sur ces différentes questions qui vont être assez importantes pour l'avenir du Bitcoin et des crypto-monnaies de manière générale.
Oui, là, c'est une année de transition extrêmement importante en 2023 avec cette question réglementaire et cette question de l'énergie, puisqu'on voit qu'Ethereum a cédé aux sirènes en se disant que c'était peut-être mieux qu'elle se range du côté de la preuve d'enjeu. Parce que, en effet, plusieurs pays se sont élevés contre le Bitcoin, et en Europe, on a eu certains pays de la zone euro qui ont posé la question de l'interdiction du Bitcoin, purement et simplement, pour des raisons de consommation d'énergie, au titre que... Parce que ce que répondent souvent le Bitcoin, c'est de dire, ceux qui sont dans la communauté, c'est de dire que finalement, ils utilisent une énergie verte. Il n'y a pas forcément... Ils ne produisent pas le Bitcoin qu'à partir d'énergie grise. Mais ce que leur répondent ceux soucieux de l'environnement, c'est de dire, mais nous, on n'a aucune envie que notre énergie verte, en fait, serve à ça. C'est-à-dire qu'on trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc là, effectivement, la menace est plus grave. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la sous-estimer. Alors, si vraiment on allait sur ça, là, ce que s'emploie de faire la communauté Bitcoin, c'est de montrer qu'en fait, elle permet d'aider en fait, au recyclage de l'énergie. Donc, on a eu quelques... On a une petite histoire croustillante récemment qui avait fait la une, puisque bon, pour ceux qui sont en prépa à nouveau, ils ont sans doute entendu parler de la bulle spéculative de la tulipe. Donc, qui avait eu lieu au XVIIIe siècle en Hollande. Et aujourd'hui, il faut savoir que les tulipes en Hollande, certaines poussent grâce aux machines Bitcoin. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme le Bitcoin, évidemment, quand on fait tourner ces machines, elles ont de l'énergie qui s'en va. Eh bien, en fait, elle va être réutilisée pour chauffer les serres à tulipes, pour les faire pousser. Voilà. Donc, ça, c'est les réponses, parce que ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que quand un projet naît, il n'a pas toutes les solutions au problème. Donc, on ne va pas demander au Bitcoin d'arriver parfait avec toutes les solutions. Donc, effectivement, il sait depuis le début que sa consommation énergétique est un problème, puisque ça fait partie des problèmes de sa survie. C'est-à-dire que si il consomme trop d'énergie et que la rémunération, à un moment donné, est trop faible, les mineurs arrêtent leur travail. Et c'est tout le Bitcoin qui s'arrête. Donc, c'est une menace très sérieuse. Donc, les mineurs ont un réel intérêt à trouver des solutions pour baisser la consommation d'énergie, ou en tout cas baisser le coût de l'énergie. Donc, effectivement, eux, ils essayent de faire comprendre qu'en fait, ils ne le font pas rien que pour embêter le monde, mais en fait, ils se mettent en ordre de marche pour essayer de trouver des solutions. Et effectivement, il y a de plus en plus de solutions qui sont trouvées, et notamment aussi le fait qu'elles peuvent aider à rendre des énergies vertes qui ne sont pas en continu, en fait, à faire en sorte de pouvoir absorber l'excédent de ces énergies quand, en fait, il n'y a pas de demande. Donc, c'est à la fois permettre la soutenabilité de certaines énergies vertes qui ne sont pas en fait permanentes en termes de production, et à la fois faire réutiliser l'énergie consommée par les ordinateurs pour pouvoir l'utiliser à quelque chose. Donc en fait, servir comme pour recharger des piles, enfin voilà, pour essayer de retransformer le... Et ça, c'est effectivement des aspects importants, parce qu'ils savent très bien que c'est quand même un danger, et pour eux en termes politiques, et pour eux en termes de survie économique. Donc ça, c'est clair. Maintenant, il est vrai que la question est très ouverte sur la régulation aujourd'hui. L'Europe a pris les devants, puisque effectivement la zone européenne a pris les devants grâce à la régulation MiCA, qui a été donc déjà dans un premier temps entérinée à la rentrée 2022, là qui va repasser en vote au niveau européen en avril. Et effectivement, l'Europe a pris un lead sur ce sujet-là par rapport aux États-Unis. Donc on va voir ce que va donner cette régulation. Bon, elle essaye de faire en sorte qu'il y ait un traitement uniforme en fait des acteurs. C'est un peu la transposition de la loi PACTE et des PSAN en fait au niveau européen. Voilà, donc c'est la France qui a un peu pris le lead sur ce sujet. Mais ce n'est qu'un pan, c'est-à-dire que ça, c'est effectivement pour essayer de stabiliser le système. Et il y en a qui pensent qu'il en faut pour que, effectivement, le système puisse être crédible dans le temps. Et le deuxième volet, c'est qu'effectivement, les banques centrales se sentant quand même un peu, même si ce n'est pas menacé par les chiffres, on les a rappelés, ils ne sont pas très importants, mais elles se disent que, pour envisager le futur, il faut qu'ils envisagent aussi d'être présents sur la monnaie digitale de façon explicite et identifiée. Et c'est pour ça qu'elles travaillent effectivement sur ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Il y en a déjà une qui est très avancée, c'est celle de la banque centrale chinoise qui s'appelle le Digital Yuan. Et la banque centrale européenne est en effet avancée sur le sujet avec des prototypes qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui.
Et bien voilà, merci pour ce panorama très complet, très exhaustif et très riche du monde assez vaste des crypto-monnaies. Merci à vous donc Nathalie Janson, je le rappelle, professeure d'économie au sein du département finance donc à Neoma Business School. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver les autres épisodes en partenariat avec Neoma également sur toutes les plateformes d'écoute de podcast sur Major Prépa. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode, toujours sur Major Prépa.